Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MJV. Les journalistes m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Il est 9h40 sur France Inter. Soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Vous vous coupez ?
Non.
Vous êtes en direct, allez-y.
C'est un dispositif qui revient sans cesse dans les derniers films d'Éric Guéret. Une caméra qui ne bouge pas, un témoin qui lui fait face, un plateau dépouillé de tout décor. Simplement un travail d'image, de miroir et de lumière qui nimbe le témoignage. Un visage, une histoire, une parole. Hommes et femmes racontent la haine des homosexuels dont ils ont fait l'objet, racontent leur chemin de transgenre, racontent les viols dont ils ont été victimes dans leur enfance. Trois documentaires qui ne laissent pas indemnes. Car ici, c'est à l'identité et aux mots que le réalisateur accorde une immense valeur, à ce CE et ce CEUX que notre société ne veut pas voir ni entendre. Dignité de celui que le téléspectateur est obligé de regarder dans les yeux. Ce soir donc, sur France 2, des enfants devenus grands, devenus des grandes personnes, sexuellement abusés lorsqu'ils étaient petits. Ils brisent le silence familial et social qui les a détruits.
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Éric Guéret.
Bonjour Sonia de Villers.
Voilà, bon, votre film m'a complètement démoli, mais c'est un film très très important. Il s'appelle Enfance abusée, il est diffusé ce soir à 23h10. Deux enfants par classe sont statistiquement victimes d'abus sexuels, 4 millions de personnes en France au minimum, car tant de crimes ne sont pas dits par ceux qui les ont subis. Que faisons-nous pour les protéger? C'est votre appel, voilà, je le montre pour ceux qui nous regardent à l'antenne, mais on va le poster également sur le site de franceinter.fr. Votre appel, publié ce matin dans Libération pour une campagne nationale de prévention contre la pédophilie. Ce texte est également sur le bureau de plusieurs ministres. On va en parler avec vous dans un instant, Éric. Et donc, avant de plonger dans ce film douloureux, un petit détour par l'actualité numérique avec notre Xavier Delaporte national. Bonjour Xavier.
Bonjour Sonia, bonjour à tous.
Alors là, quand on dit national, il lève les yeux au ciel, bah alors que non, pas du tout. La fenêtre de la porte, comme chaque mardi, qui s'ouvre aujourd'hui sur quoi, Xavier ?
Eh bien, je voudrais vous raconter, Sonia, une parabole d'aujourd'hui. Mm-hmm. Il s'agit de deux jeunes femmes qui sont amies sur Facebook. Un jour, elles s'aperçoivent que leurs publications n'apparaissent plus sur leur mur, réciproquement. Comme si l'une avait bloqué l'autre. Petit moment de désarroi et d'interrogation, mais pourquoi m'a-t-elle bloqué ? Se demande chacune dans son coin,
oui, qu'ai-je
dit, qu'ai-je fait, évidemment. Qui me vaille cette sanction abrupte et non expliquée ? L'amitié de ces jeunes filles étant solide et dépassant Facebook, elles s'en parlent par d'autres moyens et non. Aucune des deux n'a bloqué l'autre. Y aurait-il eu une manœuvre malheureuse, involontaire? Chacune vérifie dans les paramètres de son compte. Non, pas de manœuvre malheureuse. Le phénomène est d'autant plus étrange que non seulement ces jeunes femmes ne sont plus amies dans Facebook, mais elles n'existent plus l'une pour l'autre. Quand l'une tape le nom de l'autre, rien n'apparaît. Elles ont disparu l'une pour l'autre. Comme elles ont envie de comprendre, elles adressent un mail à Facebook qui, évidemment, ne leur répond jamais. Et mais n'a pas non plus résolu le problème. On en est là aujourd'hui. Que dit cette anecdote de notre vie numérique? D'abord, que notre vie numérique se déroule sur des plateformes qui buguent. Même Facebook est faillible. Ça nous rappelle ce qu'on oublie trop souvent. Les programmes informatiques sont les constructions les plus complexes jamais édifiées par les humains. Un pont suspendu par rapport à une plateforme comme Facebook, c'est vraiment hyper simple à construire. Certes, c'est vrai en plus. Certes, en cas d'erreur, les conséquences ne sont pas les mêmes, mais quand même, on évolue dans des technosystèmes instables qui agissent parfois bizarrement et Pôle emploi en fait la meilleure expérience quotidiennement. Mmh. Cette petite histoire nous rappelle ensuite ce que le grand juriste Lawrence Lessig avait formulé en 2001 dans un texte devenu célèbre, Code is Law. Le code fait la loi. C'est-à-dire que dans le monde numérique, c'est le code informatique qui fait la règle. S'il décide volontairement ou pas que vous ne pouvez plus être ami avec cette personne, eh bien, vous ne pouvez plus. Un point, c'est tout. Pas de recours, peu ou pas d'explication, Facebook est loin, Facebook fait sa loi dans Facebook sans estimer nécessaire de nous expliquer. Bref, on est passé de nul n'est censé ignorer la loi à bon courage pour connaître la loi que tu subis. Cette anecdote nous dit aussi que notre vie sociale, qui a toujours été un peu compliquée, tout le monde, la littérature en a fait son jus, fait face à des problèmes nouveaux. Être bloqué par quelqu'un, par exemple, ça n'existait pas dans le monde pré-numérique. Qu'est-ce que ça veut dire que bloquer quelqu'un? En quoi est-ce différent de ne plus le suivre, par exemple? Est-ce qu'on peut encore parler de vive voix à quelqu'un qui nous a bloqué? Et disparaître pour les autres, pas seulement pour une personne, mais pour tous les autres dans un réseau social. En voilà un beau problème contemporain. Imaginez, vous êtes là, mais personne ne voit ce que vous dites, ce que vous écrivez, ce que vous postez. Voilà une peine que pourrait un jour décider d'infliger un réseau social, l'invisibilité. Souvenez-vous ce qui arrive au personnage de H.G. Wells, l'homme invisible devient fou. Et voilà, C'était une petite parabole aujourd'hui.
C'est vrai que l'homme invisible devient fou. Ah ben J'avais oublié ça. Merci. Merci Xavier Delaporte. À réécouter La Fenêtre de la Porte sur franceinter.fr. Éric Guéret, Enfance abusée sur France 2.
L'instant M. Le rendez-vous média de France Inter.
Il m'a demandé, est-ce que tu jouis ? Le mot jouissance, le mot jouir a détruit ma vie. Ça a détruit ma vie sexuelle, ma vie amoureuse, ça a détruit toute ma vie.
Tellement on a été sali qu'on a l'impression que cette boue est en nous, que leur sperme coule dans nos veines et que ça nous pourrit de l'intérieur.
Extrait de votre film, Éric Guéret, qui est diffusé donc à 23h10 sur France 2, des adultes qui ne taisent rien de ce qu'ils sont devenus après. Hommes et femmes, je l'ai dit tout à l'heure, hommes et femmes, pardon, vous font face, ils nous font face, et du coup, ils se font face. Ça leur permet de dire et de se dire à eux-mêmes des choses compliquées, comme « mon frère, ce héros qui me protégeait, qui me gâtait et qui m'a violé. Cet ami de la famille qui m'était... tant d'amour, tant de douceur dans le viol qu'il me faisait subir. Mon père, autoritaire et violent le jour, devenait si gentil la nuit lorsqu'il entrait dans ma chambre. » C'est là que vous entrez dans ce qu'il y a de plus complexe dans ces histoires, Éric Guéret.
Bah oui, parce qu'en fait, ce sont des histoires pleines de paradoxes.
Oui.
Un enfant, quand il subit de la violence sexuelle, en fait, il comprend pas ce qui lui arrive. Mmh. Et donc... il y a une forme de manipulation de l'adulte qui le rend d'une certaine manière complice. Mais en fait, cette complicité que l'enfant pense être de la complicité, c'est de l'emprise. Donc ce qu'il faut déconstruire après, c'est le phénomène de l'emprise.
Et ce qui va être le plus difficile à surmonter pour eux, ce qui va être le plus difficile à détricoter et ce qui va être le plus difficile à, comment dire, à nettoyer, parce que ça laisse une forme de culpabilité très, très active chez celui qui l'a subi. Chacun à leur manière, ils racontent. Donc ce sont des récits très crus. Nous avons décidé sur France Inter, c'est une décision collective, de vous en diffuser deux courts extraits, bien qu'il soit 9h du matin. C'est pas facile à écouter ce qu'on va vous faire entendre. Parce que tant qu'une famille ne peut entendre, un enfant se meurt. Tant qu'une société ne peut pas entendre la réalité de ce que c'est que le viol d'un enfant, il ne peut pas protéger les enfants.
Très rapidement, mon frère essaye de me pénétrer. Je sens comme une piqûre, mais très violente. Et là, j'ai compris, c'est très bref. Ça dure quelques instants, quelques va-et-vient. Ensuite, mon frère sort. Et là, en moi, il se passe comme si quelque chose s'écroulait. Et d'abord, une douleur terrible, terrifiante. Et puis, un dégoût aussi après, immédiat, de l'odeur de son souffle, de ce liquide qui était contre moi, que je connaissais pas.
Il me faisait des brûlures au sexe, parce que ça durait en longueur. Il avait les mains assez rêches. Donc forcément, ça me faisait mal, quoi. Vu que j'étais pas consentant, des fois, il employait un peu la force. De toute façon, je vais résister, c'est moi qui vais avoir mal. Finalement, c'est moi qui me retrouve avec des brûlures au sexe, c'est moi qui me retrouve avec des saignements anals, enfin, tout ça. Donc, autant aller vite.
Voilà, vous avez entendu Laurent violé 3 ans durant par son frère aîné, puis Kevin par son entraîneur de foot, meilleur ami de son père. Ça a duré pendant 10 ans, ce calvaire. Il y a parmi vos différents témoins, Éric Guéret, des gens qui n'avaient jamais parlé à un journaliste.
Bah oui. Après, juste par rapport aux extraits que vous diffusez, c'est vrai qu'ils sont très durs.
Oui.
C'est le début du film. Ce qui est important de comprendre, que c'est aussi un film qui va vers la lumière. C'est un film qui parle de la reconstruction des êtres. Et donc, il ne faut pas non plus rester uniquement sur la violence. On raconte aussi pourquoi il faut parler et comment on se reconstruit. C'est très important.
En même temps, ce film n'aurait pas eu de sens si les témoins avaient parlé de dos et s'ils avaient parlé dans l'anonymat. Parce qu'ils sont là, je l'ai dit, avec leur visage, mais ils sont là avec leur prénom, avec le nom, avec parfois le prénom du violeur, avec souvent la ville dans laquelle ça s'est passé.
Ça va même plus loin. Il y a une femme, par exemple, qui a demandé qu'on rajoute dans son nom d'enfance, qui est le nom de son père qui l'a violé. Mmh. C'est-à-dire que parler à cette caméra, me parler à ce moment-là, ça fait partie d'un choix de reconstruction qui est celui de prendre la parole et qui, en fait, une phase qu'on ne peut pas éviter. Si on veut aller vers la reconstruction, c'est ça qu'il faut dire à toutes les victimes, il faut prendre la parole.
Mais sans
parole,
il n'y a pas de guérison possible. L'un de vos témoins, il y en a un qui dit si tu ne parles pas tout de suite, c'est foutu et tu es foutu. C'est-à-dire que tous ils disent qu'ils n'ont pas pu parler sur le moment, tous ils disent qu'ils ont entamé une sorte d'engrenage parce que la honte engendre la culpabilité, parce que la culpabilité engendre le silence et qu'ensuite on est littéralement enfermé à l'intérieur de soi-même. Et de cet enfermement, ils vous parlent tous très longuement.
Très longuement. Alors, il y a à la fois le silence quand ils sont enfants. Mm-hmm. Donc ça, c'est une première chose, parce que effectivement, il y a un phénomène d'emprise où l'adulte tient l'enfant dans sa main et finalement, par de mille manières, par la menace, par la culpabilité, par la honte, par la gentillesse, comme mm-hmm. vous l'avez dit, mm-hmm. par la douceur, de mm-hmm. mille manières, mm-hmm. en fait, l'enferme dans cette relation entre eux, qui est une relation
sauf
anormale.
Sauf que l'enfant ne le comprend pas et qu'après il ne peut pas s'expliquer sur pourquoi il n'a rien dit sur le moment.
Il le comprend pas et puis après il s'en veut de pas avoir parlé, voilà. Et puis après il parle plus et finalement c'est une prison qui se referme, ouais, sur lui. Le vrai problème, c'est que parfois, 30 ans plus tard, les adultes sont toujours dans cette prison. Il y a énormément de personnes en France qui ont été violées et qui ne le disent toujours pas. Ce qu'il faut leur dire à ces personnes-là, de ce que j'en ai compris moi, juste, oui, de mon point d'observateur, oui, c'est que tant qu'elles resteront dans le silence, elles ne pourront pas aller vers une reconstruction. Si on garde ça en soi, c'est une parole qui tue. Le silence tue à petit feu. Ça tue par de la maladie, ça tue par mille processus.
D'autodestruction.
Seule la parole peut libérer. Donc en fait, voilà, ce film, il est là aussi pour dire aux victimes qui sont encore dans le silence, que si elles ne vont pas vers la parole, elles pourront pas aller vers une forme de reconstruction.
Et pour ça, il fallait que ce soit dit à la télé. Non, mais c'est vraiment quand j'ai fini le visionnage de ce film, je me suis dit, eh ben, ça y est, c'est dit à la télé. On ne peut pas le dire en famille, eh ben, ça y est, c'est dit à la télé. Moi, je vous assure, ça a été à la fin, ça a été un gros choc pour ça, en me disant, ça y est, on le dit à la télévision française. Alors, il n'y a pas deux histoires qui se ressemblent dans votre film, Éric Guéret, mais tous disent une même chose. Avoir désespérément attendu qu'un parent voie, qu'un parent comprenne, qu'un parent agissent. Et ce qui n'est pas arrivé, et au fond c'est sans doute ça qui les a le plus détruits, c'est que parfois le silence a perduré face à eux, oui, même lorsqu'ils ont réussi à parler.
Un jour, tu étais sur le lit de papa, tu avais ta petite robe blanche et ton petit truc dans les cheveux, tu étais toute mignonne. Et elle me dit, je t'ai trouvé avec papa et tu étais couverte de sperme. Et lui avait enlevé son pantalon, enfin, alors elle me dit, je t'ai tout de suite enlevé du lit, j'ai enlevé ta petite robe, je l'ai lavée et personne n'en a jamais rien su.
Ma mère m'a dit deux choses dans la même phrase. Je te crois, parce que je m'en suis toujours douté. Et là, c'est une rupture totale, immédiate, avec ma mère. J'ai pas accepté que ma mère se doute qu'un autre de ses enfants soit en train de violer son dernier enfant, et qu'elle préfère fermer les yeux.
Voilà, il y a deux récits ici. L'un situé avant que la victime ne parle, et cette phrase terrible, personne n'en a rien su. Donc, ça s'arrête
donc
là.
Y a pas de problème.
Et puis l'autre récit, après, avec cette déflagration, nul ne m'aide, on me laisse seul, seul face au danger, seul face à la souffrance.
Oui, mais ce qui est incompréhensible pour moi, ça fait un an et demi que je travaille sur ce sujet, c'est le déni. Qui est partout. Il est dans la société, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. 4 millions de victimes, il n'y a aucune politique publique digne de ce nom qui est mise en place. Il n'y a aucune politique de prévention qui est mise en place. Les deux enfants par classe, personne ne va leur dire « Attention, t'es en danger ». Personne ne leur dit. Hein. Et puis,
mais ça commence par le silence dans la famille.
Et ça commence par le silence dans la famille. Il faut comprendre qu'un enfant qui dénonce sa famille, qui dénonce un membre de sa famille sur l'inceste, parce que faut quand même comprendre que plus de la moitié des violences, c'est de l'inceste. C'est un mot qu'on n'arrive pas à prononcer en France et c'est un mot qu'il faut arriver à marteler. C'est pas un gros mot, inceste, c'est une réalité contre laquelle il faut lutter. Voilà. 80% des enfants qui dénoncent l'inceste dans leur famille sont rejetés par la famille.
Bah,
vous prenez la parole.
En fait,
le corps se défend pour garder sa cohérence et on enlève, et on préfère écarter la victime que d'écarter le bourreau. Et ça, c'est une forme de déni. Donc effectivement, cette mère, elle a vu, mais elle était attachée à son statut social, à la relation avec son mari. Parce qu'effectivement, quand on dénonce ça, ça fait exploser la famille. Hein,
c'est ça, et puis David, un autre témoin, petit garçon, sa tante jouait tout le temps à lui caresser le sexe, à mettre son sexe dans sa bouche. D'ailleurs, c'est très intéressant que vous ayez mis un cas de pédophilie féminine, parce que c'est plus rare.
C'est presque, et alors, c'est au moins 7 ou 8% hein, des cas. Hein.
Voilà, donc c'est rare, et en tout cas, c'est très très peu raconté. Et le petit garçon le dit tout de suite à sa mère, qu'il engueule. Mais qu'est-ce que tu fichais tout nu? Mais ça, voilà. Et elle préfère la relation à sa sœur. Voilà. Et lui, il le dit, c'est ça, c'est d'avoir appelé à l'aide ma mère, qu'elle ne m'ait pas entendu. Ah oui. Toute ma vie, je n'ai cherché que des gens qui me bousillaient plutôt que des gens qui pouvaient m'aimer. Alors, vous ne racontez pas cela, vous venez de le dire, Éric Guéret. Vous racontez aussi des parents qui n'ont rien su, mais que lorsqu'ils ont découvert, ils ont mis toute leur force dans un dépôt de plainte et dans l'attente d'un procès. Vous filmez même une famille entière, hein. Père, mère et enfant abusés par un ami de la famille. Vous racontez le poids que c'est pour les parents. Hein, de savoir que son enfant a vécu cela et qu'on a été impuissant. Vous racontez l'école et la sidération d'un père qui comprend que l'école ne protège pas les enfants des prédateurs. Voilà, autre extrait très difficile à entendre. Les ateliers du goût dans une petite école élémentaire. Les petits-enfants y avaient les yeux bandés.
Les enfants avaient les yeux bandés. Parce que le principe de l'atelier du goût, c'est de goûter les choses sans les voir. Ils écoutaient les choses, mais c'était pas avec une cuillère. C'était long, dur, avec des poils. Qu'à la fin, ils étaient obligés d'avaler, ils n'avaient pas le droit de vomir, ils n'avaient pas le droit de ceci, ils n'avaient pas le droit de cela. Chaque fois, la seule chose qu'ils faisaient goûter à la fin, c'était du fromage liquide amer.
Voilà une histoire qui a été médiatisée. Un enfant a soulevé le bandeau, un enfant a parlé, le maître a été arrêté. Mais ce qui est très grave, c'est qu'en fait, cet instituteur avait déjà été condamné auparavant pour détention d'images à caractère pédopornographique. Après cela, une loi a été votée, après l'affaire de Villefontaine, afin que l'appareil judiciaire transmette ces informations à l'éducation nationale. Seulement, voilà, une école, ça ne sont pas que des instituteurs.
Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que là encore, il y a une espèce de défaillance de la société, de la responsabilité de la société face à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la loi Villefontaine a obligé maintenant la justice à prévenir l'éducation nationale quand quelqu'un avait été condamné. Mais ça ne fonctionne qu'avec l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un entraîneur de sport, c'est-à-dire que tout le milieu associatif n'est pas concerné, le personnel de mairie n'est pas concerné.
Mais c'est ce que Kevin vous dit, c'est-à-dire que...
Il n'y a pas
Kevin...
de partage de fichiers. Il n'y a pas de partage de fichiers. Kevin, il a été violé par son entraîneur de foot pendant 10 ans. Cette personne est en prison et va sortir dans quelques années, au bout de sa peine, et elle pourra retourner entraîner au foot.
Voilà,
elle pourra retraîner. Voilà. Ce qu'il faut quand même comprendre...
Et que plusieurs de vos témoins, lors du procès, ont compris qu'ils n'avaient pas été la seule et unique victime de celui qui les a violés.
C'est ça. Alors Kevin, c'était énorme, c'était quasiment tout le village. Il a violé tout le village, et puis il va sortir de prison, et il va pouvoir continuer à entraîner. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que la Fédération Française de Foot, là, pour le coup, elle a aussi des questions à se poser. Kevin, c'était dans son club, dans son district. La police est venue pour saisir les ordinateurs, ils n'avaient pas le bon mandat, ils ont été mis dehors. Quand ils sont revenus avec le bon mandat, le district avait effacé tous les ordinateurs du club.
Et puis, il y a une femme formidable dans ce film qui, elle aussi, a été victime dans son enfance parce que tout est raconté du point de vue des victimes. Elle est sénatrice, enfin, elle a été sénatrice, elle est proviseure de collège. Et elle vous dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En matière de politique, il n'y a pas pire, il n'y a pas plus impopulaire, finalement. Il n'y a pas de solution immédiate, il n'y a que des histoires dégueulasses à entendre et insupportables à révéler.
Elle n'y est pas arrivée. Corinne Bouchoux, qui est un personnage formidable dans le film, qui a été sénatrice, elle est arrivée donc en tant que victime. Elle ne l'avait jamais dit, elle le dévoile dans ce film. Elle est arrivée en tant que sénatrice en disant « moi je vais faire une commission d'enquête parlementaire parce qu'il faut, etc., etc., il faut, etc. » Elle a fait 50 combats au Sénat, elle a réussi à avoir 2 heures de conférence sur le sujet, encore sur le sujet de manière détournée. Mais regardez encore, ils ont failli arriver à monter une commission d'enquête parlementaire sur les violences commises par l'Église et finalement les responsables politiques ont voté non. Ça fait partie du déni, ça fait partie de la responsabilité des hommes politiques. C'est pour ça qu'entre autres l'appel dont je vous parle qui a été
publié ce matin dans Libération,
dans Libération,
campagne nationale de prévention contre la pédophilie, vous alertez le gouvernement, vous le demandez, et puis ce soir la diffusion de ce film à 23h10 qui en aidera peut-être d'autres à parler, et en tout cas qui aidera leur entourage à entendre. Merci beaucoup.